Bonjour, bienvenue sur Mediapart pour un nouveau numéro de La Fabrique des images. Alors, comment raconter l'ascension de l'extrême droite en France? Comment filmer de manière juste un parti qui verrouille tellement sa communication? C'est le pari réussi du film La Cravate, sorti en salle le 5 février dernier. Et nous sommes donc très contents de recevoir aujourd'hui ces deux réalisateurs, Étienne Chailloux et Mathias Théry. Donc La Cravate, c'est le récit d'une trajectoire militante d'un jeune frontiste de Picardie qu'on suit tout au long de la campagne présidentielle de 2017. Je vous propose peut-être pour commencer qu'on regarde la bande-annonce.
Et donc, voici le texte. Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier.
J'ai l'impression de lire un livre, mais tu sais déjà tout ce qui se passe dedans.
Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. C'est pas pareil, tu le sais bien.
Mais oui, je le sais bien.
On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. À ses côtés, on visitera les étages du parti.
Bastien, Florian, bonjour.
On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition.
Ça fait un peu flipper tout ça quand même.
Le supérieur du héros sentait qu'il fallait se méfier.
Non, mais après, il filme, je veux dire des trucs.
Je veux pas de cette séquence dans le montage final, tout ça est confidentiel.
Mais pouvait-il agir contre cet attachement étrange qui s'était tissé peu à peu entre son militant et l'équipe de cinéma? Qui mêlait la tendresse et le dégoût, la ruse, la langue de bois, le mensonge et la sincérité.
Mais je passe pour un salaud, du coup. J'étais un salaud.
La fin du récit est connue, c'était en mai 2017. Mais on lira auparavant tout ce qui animait Bastien Régnier pendant que s'écrivait une page nouvelle du roman national. Donc c'est parti. Tout ce que tu nous as dit, on le met dans le film.
Ouais.
Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avoir choisi ce sujet, le Front National, cette campagne présidentielle, et comment avez-vous fait la rencontre de ce jeune militant, Bastien, qui est donc militant dans la Somme à Amiens?
Je pense que c'est un mélange de la rencontre de Bastien, donc qu'on a rencontré sur un projet pour la télévision, et d'un sentiment du monde qui est en train de changer. Il y avait un mois plus tôt, l'élection de Trump, pour ma part, ça m'a assez impressionné, cette élection soudaine de quelqu'un qu'on n'avait pas vu venir. Quoi.
Et voilà, donc à la fois une préoccupation en tant que citoyen sur ce qui est en train de se passer en France, mais en Europe, plus largement dans le monde, avec le retour un peu des nationalistes. Et puis, on a profité d'une relation qui s'était instaurée entre nous et Bastien pour approfondir cette relation dans ce film.
Oui, parce que ce qu'il faut dire d'emblée, et sans dévoiler ce qu'il y a un certain nombre de rebondissements dans votre film, c'est qu'on a accès, à travers ce portrait de Bastien, à une réalité qu'on voit rarement sur le Front National, et que nous, journalistes, on a beaucoup de mal à appréhender. C'est l'intérieur, les arcanes de ce parti, les petits jeux de pouvoir, les illusions aussi des militants. Est-ce que la forme portrait et le fait que vous suiviez justement un parcours vous a permis peut-être d'ouvrir des portes qui en général restent closes? Est-ce que ça a aussi peut-être endormi la vigilance des communicants du parti?
Je dirais qu'il y a un aspect qui joue pour ça, c'est le fait d'avoir visé au bon niveau du parti. Bastien, c'est pas du tout ce qu'ils appellent militant de base, quelqu'un qui dans le Parti Front National colle les affiches et distribue les tracts quasi exclusivement. Et c'est pas du tout un cadre encore, quelqu'un qui au sein du Front National a la parole un peu muselé par sa hiérarchie. Il est juste à un niveau. Et quand on commence à le filmer, il est à un niveau où il veut monter un peu. Donc peut-être aller chez les cadres, mais il n'y arrive pas encore. Quoi. Et je pense que c'est cette... il me semble, hein, ce niveau-là qui a servi...
Ouais, assez petit pour qu'on nous laisse tranquille et en même temps en train d'ouvrir la porte et d'entrer chez les grands. Et le récit un petit peu romancé nous permet, en restant un petit peu juste derrière son épaule, d'observer par-dessus son épaule et en observant comment lui-même réagit à ce qui lui arrive, on comprend des choses sur le parti.
Mais on n'a pas eu accès aux arcanes vraiment du Front National. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Les portes sont fermées. Et du coup, on a dû trouver des procédés pour que le spectateur les ressente sans qu'on les montre à la caméra.
D'accord. Ben, on va y venir au procédé parce que votre film est formellement très original et très, très intéressant. Justement, j'allais vous poser d'abord la question de vos modèles sur le sujet. D'abord, en y réfléchissant, on s'est dit qu'il y avait finalement assez peu de fiction sur le Front National et des documentaires télévisés qui sont souvent, qui prennent souvent le parti de la caméra cachée, de dévoiler la face cachée de ce parti. C'est pas du tout votre point de vue. Et j'avais envie d'abord, avant qu'on en vienne vraiment à vos choix formels, de vous demander comment vous étiez interrogé sur votre place juste, puisque sur ce sujet-là, il me semble qu'il y a toujours deux écueils. C'est le regard très surplombant, parfois un peu méprisant, des journalistes ou des documentaristes. Ou alors, à l'inverse, une certaine fascination pour son objet, et on sait très bien que ces gens-là communiquent extrêmement bien. Comment vous avez réfléchi à, justement, vous parliez-vous du bon échelon, et comment avez-vous réfléchi à votre place juste ?
En prenant en compte ça, ce que vous avez dit, hein, on se rendait bien compte du risque de surplomb, c'est un sujet sur la fracture sociale aussi, hein, sur les gens qui ont le pouvoir de raconter des histoires, journalistes, cinéastes, écrivains, et des gens qui n'en ont pas ce pouvoir. Donc il fallait faire très attention à ça. Et de l'autre côté, c'est le danger de laisser une caméra ouverte au propos du Front National, quoi. Notre réponse, ça a été ce qu'on nomme souvent la forme du film, quoi, l'écriture du film, mais qui, nous, va toujours de pair avec le fond. Donc, quelle va être la forme juste pour contrôler ça un peu, tout en laissant la vie apparaître dans le film.
D'ailleurs, une des manières de faire dans notre forme, c'est de désamorcer les complexités de l'exercice. Je m'explique. En effet, dans tous les films politiques, quand les gens vont filmer les politiques, il y a forcément des rapports de force. Il y a forcément de la manipulation de l'image, surtout quand on filme le politique aujourd'hui, où la communication maintenant a pris une dimension exceptionnelle, particulièrement au Front National. Et donc, en pensant cette forme où on est à la fois, on est dans la distance du récit qui permet de montrer le travail du Front National sur sa communication, c'est-à-dire de désamorcer aussi ce pouvoir en le décryptant, mais aussi de notre part, montrer quelles sont nos armes à nous. C'est-à-dire que de montrer que nous sommes aussi nous-mêmes à l'écriture d'une voix, que c'est nous qui sommes les tenants du montage, et que l'on montre tout ça à Bastien et aux spectateurs, on montre qu'on n'est pas que personne n'est dans la neutralité, mais comment est-ce qu'on trouve un dispositif qui permet de dépasser ces choses-là sans les effacer, mais de tout de même essayer de trouver un terrain de conversation, un terrain de discussion avec l'autre. Et là, on pose un dispositif qui paraît au départ assez ficelé, mais qui ensuite, on cherche les failles de ce dispositif pour aller à la recherche de plus de sincérité, de se rapprocher plus de la vérité. On a toujours vu dans des films de gens qui filment le pouvoir ou qui filment les journalistes des difficultés. Raymond Depardon, quand il filme Giscard d'Estaing, Giscard d'Estaing lui censure le film. Parce que le politique veut se montrer d'une certaine manière, le réalisateur veut le montrer d'une autre manière. Et voilà, il y a d'autres films où on dit « Ah, le réalisateur s'est fait complètement aveugler par par la prestance, ouais, le numéro du politicien.
Je pense à Serge Moati avec Jean-Marie Le Pen, dont on a beaucoup critiqué une certaine fascination pour son objet. On sent qu'il est tombé un peu
sur
en...
Emmanuel Macron, là, qui sont sortis pendant la...
Oui, les campagnes sur Emmanuel Macron, des choses comme ça, où on se dit... Donc, nous, notre question n'est pas tant de dire est-ce qu'on va, comment on va faire une jolie forme, c'est comment est-ce qu'on va proposer une forme qui permet au spectateur de réfléchir à cette pratique-là, qui est une pratique super particulière.
Alors justement, c'est peut-être intéressant à ce stade qu'on voit un extrait. C'est un moment où le jeune Bastien va conseiller Florian Philippot sur sa communication, faire une vidéo. Je vous propose qu'on le regarde tout de suite, on en parle après.
Soyez décontracté comme si vous étiez chez vous, précisa Bastien. Vous pouvez boire un café, ça fera encore plus sympa. Et même si vous abordez des sujets sérieux, n'hésitez pas à plaisanter. Quand les gens rient, c'est gagné. Philippot était un homme encore jeune. Il avait rejoint l'équipe de Madame Le Pen peu de temps après sa sortie de l'École nationale d'administration. Il avait rapidement senti que le mouvement manquait de cohésion interne. Aussi avait-il mis en œuvre toute sa science technocratique pour le structurer et le transformer en un parti des plus puissants de France. Il avait insisté sur la formation des cadres, renforcé le maillage territorial et encouragé le recrutement en mettant la jeunesse à l'honneur. Mais c'est à la stratégie de communication qu'il a porté le plus grand soin. Pendant longtemps, le Front National n'avait pas pris la peine de masquer un fond xénophobe. Les militants avaient pu exprimer sans détour un rejet des étrangers. Le fondateur, Le Pen père, s'essayait au calembour faisant l'apologie des régimes génocidaires. Il y avait eu aussi plusieurs crimes racistes commis par des affiliés du parti. Certain que la mauvaise réputation bloquerait toute progression électorale, Philippot avait renforcé ce qu'on nommait « dédiabolisation ». On passait au filtre les messages outranciers, on excluait l'école porteur de haine, on misait sur la convivialité et la bienveillance, mais avec fermeté.
Nickel. J'imagine déjà ce que... Les montages que je peux faire. Et je me suis tellement marré sur tout le long. Et c'est exactement le truc, c'est...
Mais ça va être un peu long, non?
Non, je te vois.
Ils enregistrèrent l'annonce d'ouverture de la chaîne YouTube et quelques commentaires sur l'actualité. Bastien encourageait l'orateur en acquiesçant de la tête, en forçant des sourires, et il osa le tutoiement qui s'imposa avec naturel.
N'hésite pas à faire une gestuelle en même temps quand tu les critiques.
Jamais je n'aurais cru en arriver là, pensait-il. Je pouvais au mieux devenir conseiller municipal et me voici en train de diriger Philippot.
Donc dans l'extrait qu'on vient de voir, le jeune Bastien qui est en pleine ascension à ce moment-là dans le parti donne des conseils à Florian Philippot et très rapidement c'est vous qui reprenez la parole, en fait c'est votre voix off. Il faut quand même dire que ce film est extrêmement écrit, très littéraire, a une narration qui est très proche du roman. On pense aussi à des grands romans, alors que ce soit Les Illusions Perdues évidemment, mais aussi L'Enfance d'un Chef. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très très littéraire. Pourquoi ce choix?
C'était pour essayer d'aller, tu l'as dit tout à l'heure Mathias, d'aller voir au-delà de ce que nous donne le parti, d'aller au-delà de la surface des choses, d'aller en profondeur. Donc ce texte, il a été écrit à partir d'entretiens qu'on a fait avec Bastien. Donc chacune des phrases, elle est presque validée en amont par Bastien. C'est lui qui nous a raconté. Ce qu'on a fait, c'est juste de le transposer en récit littéraire, mais sinon c'est ses propres mots. On voulait vraiment qu'on se laisse pas avoir par la communication du parti. Donc dans l'extrait, on voit bien qu'on le fait à un moment donné où le parti cherche à communiquer, une espèce de caméra café de Philippot assez ridicule. Hein, on monte l'extrait après, il dit c'est Hélène et les garçons, etc. Ça n'a aucun intérêt de le laisser le in. Donc on montre aux spectateurs que non, on va couper le in brutalement, de manière autoritaire, et on va vous dire plutôt notre ressenti, mais qui est un ressenti assez général sur le parti à ce moment-là.
Oui, qui nous permet de regarder avec plus de distance aussi. On fait un texte au passé simple. On est dans cette séquence en train de, comme tu dis, Étienne, sur un moment assez anecdotique, sauf que nous, on en profite pour faire un portrait de qui est Florian Philippot, quelle est sa place dans le parti, qu'est-ce qui... Comment est-ce qu'il a repris en main le parti? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire avec ses jeunes en essayant de créer un peu de donner un nouveau souffle à ce parti, etc. Et en même temps, la forme littéraire nous permet d'emprunter la posture de l'écrivain, qui est une posture qui n'est pas une posture militante, mais qui est une posture tout de même qui permet de tourner autour de son personnage, je dirais. C'est-à-dire d'être à la fois en recul, dans un recul un peu historique, comme ça, on se dit voilà, la petite histoire dans la grande, et en même temps, complètement dans l'intimité, savoir qu'est-ce que Bastien ressent, par où il passe, et d'essayer de faire varier la distance avec lui, parce que on ne peut pas observer cette personne comme un rat de laboratoire, on ne peut pas être dans sa tête, mais on peut que essayer de nous rapprocher, de nous éloigner pour mieux voir, quoi. C'est un peu l'idée. Et le fait de lui proposer ensuite ce propre texte va créer quelque chose de nouveau aussi.
Et tout à l'heure, vous parliez de références, de filmer le politique. Nos références, ça a été quasi exclusivement des livres dans ce projet.
D'accord.
Très peu de films, je pense. Ouais.
Ou des films qui montrent la difficulté de filmer. C'est-à-dire, dans le documentaire, tout de même, on avait des exemples de films où on se dit, où le réalisateur lui-même dit, l'expérience Blocher, par exemple, où il dit, je crois que je me suis fait un peu avoir dans ce film. Ou bien le film de Avi Moghrabi sur Ariel Sharon, où il ne peut rien faire d'autre que de montrer dans le film qu'il n'y arrive pas. Et qu'il met en scène son échec, quoi. Donc il fallait fabriquer une nouvelle proposition.
D'accord. Oui, parce que par ailleurs, ça va plutôt à l'encontre d'une mode qu'on voit un peu dans le documentaire, qui est la suppression totale de la voix off. Là, on a une voix off extrêmement présente. Et puis, c'est vrai qu'alors, d'un point de vue journalistique, c'est le parti pris de couper les micros dès lors que un leader politique s'exprime. Enfin, il y a quelques passages, et c'est quand même très radical.
Après, on le montre, ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu, on fait ce qu'on veut en montage, hein. On peut couper ce qu'on veut, couper l'image où on veut. On a choisi de montrer une image où les gens parlent. Il n'y a pas de son, hein.
Que le
spectateur le voit, constate notre manipulation et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'on est en train de faire. Mais attention, le film, il est en mouvement permanent. C'est-à-dire que ce son coupé, c'est vraiment présent dans la première partie du film. Au milieu du film arrive un événement qu'on n'avait pas prévu, qui est déclenché par notre dispositif et par ce qu'on a proposé à Bastien. Et on a été obligé de repenser le film. Et du coup, les micros coupés, j'ai envie de dire, c'est vrai au début, c'est beaucoup moins vrai à la fin. Mm-hmm. À la fin, on revient à nos premières amours de cinéma direct, de son in, de scènes documentaires assez classiques, quoi.
D'accord. Et alors, l'autre originalité dont on n'a pas encore parlé sur la forme de votre film, c'est que donc tout au long du film, vous restituez régulièrement à Bastien votre récit et vous instaurez un dialogue avec lui, vous lui demandez de valider, de critiquer éventuellement ce que vous avez écrit. Est-ce que, alors, pourquoi cette démarche? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre comme ça, encore une fois, du point de vue juste, un peu de l'ordre de la restitution en sociologie, qui est une étape importante? Comment vous avez pensé ce moment?
Au départ, nous, de manière éthique, on se disait même, il n'est pas possible pour nous de plaquer notre texte écrit par nous sur la vie de ce jeune homme, même si elle est écrite, même si le texte est écrit vraiment à partir de ce que lui nous a confié. Donc l'idée de départ, c'est plutôt de provoquer, c'est une expérience, quoi. Aller chercher la validation, mais aussi provoquer la discussion, en disant, si on n'est pas d'accord, on pourra un petit peu discuter. Mais finalement, il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas tant prévu que ça, c'est que puisqu'on a décidé de raconter Bastien par l'intime, d'aller interroger la relation que lui entretient, intime qu'il entretient avec le politique, à un moment donné, il a décidé, lui, d'accepter de sortir de son statut de militant qui est là pour représenter le parti avec les éléments de langage habituels, et il a voulu jouer un autre jeu, qui est celui plutôt de l'authenticité, on va dire, en disant... Vous avez décidé d'essayer de me raconter entièrement, eh ben, je vais arrêter de jouer le jeu du parti et je vais jouer votre jeu parce qu'il m'intéresse plus presque. Et je vais vous en dire plus et je vais être dans la tentative d'exister par le film autrement et entièrement. Ça, c'était pas prévu.
Et je dirais, c'est pour ça que le titre colle aussi à ça. C'est-à-dire que la cravate, c'est quelque chose, c'est l'attribut du politicien. Chez Bastien, c'est un objet qui le rend, d'après lui, plus beau. Il choisit d'aller au Front National parce qu'il se dit c'est la lutte politique, c'est plus respectable que ce que j'ai pu faire avant. Nous, on lui propose dans ce film de parler vrai, d'enlever la cravate. Quoi. Mais ce faisant, je pense qu'il redevient beau quand même.
C'est la tension entre eux. Est-ce que je suis un militant ou est-ce que je suis un homme? Nous, on a rencontré un homme aussi. Est-ce que le fait de rencontrer un homme fait qu'on oublie le militant et qu'on lui excuse tous ces partis pris politiques? Je pense pas du tout. Mais je pense qu'il faut aller aussi chercher qui sont les gens derrière ceux qui tiennent les drapeaux, essayer de comprendre pourquoi ils sont en train de tenir les drapeaux et pourquoi est-ce que les partis politiques viennent de leur donner des réponses à certains moments donnés, mais qu'il y a aussi d'autres moyens de leur donner des réponses, pas que la politique.
Oui, et c'est vrai que le parti pris de votre film, c'est aussi de conserver une certaine empathie avec ce personnage et de le montrer, comme vous le disiez, aussi en train de réfléchir à lui-même. Vous lui tendez un miroir et on voit bien qu'il commence aussi à s'interroger sur son parcours, sur ce qu'il a fait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris pendant le tournage, c'est-à-dire ce moment où effectivement lui évolue? Alors, sans, il s'agit pas du tout de dire que c'est un repenti. D'ailleurs, vous montrez bien le film à la fin, il tient totalement à ses idées, il tient totalement au parti, mais de montrer qu'en fait votre procédé a induit en fait une réflexion et c'est très beau ce moment où un dialogue s'instaure et qu'une réflexion de part et d'autre, on a l'impression, se montre.
Je pense qu'on l'avait en tête, mais ça n'a jamais été notre intention première. Notre intention, c'était plutôt de le peindre avec la plus grande précision possible. Et puis secrètement, on se disait mais s'il changeait, mais si, qu'est-ce que ça va lui procurer? Alors, il y a une vie après le film aussi. Bastien, aujourd'hui, a accompagné des projections. Et il n'est pas complètement repenti de son idéologie. En revanche, il renie pas mal de choses qu'il a vécues, ouais. Notamment le Front National. Hein.
Et il dit critiques que le film assez fort. Lui a permis de se regarder et de réfléchir à certains de ses choix et d'évoluer depuis. C'est une évolution lente, mais voilà. Alors, c'est pas un des objectifs du film, mais donc nous, ouais. En fait, on cherchait tout de même à rentrer, enfin, quel était l'endroit où on pouvait réussir à rentrer en discussion avec lui, c'est-à-dire se dire, on va discuter du texte, on a ce livre qui est posé entre nous, et le fait de regarder ensemble ce livre et de se demander est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on n'est pas juste, etc., ça crée un dialogue possible, alors que si on faisait un débat politique, il serait assez stérile. Il y a une scène dans le film où il discute avec une militante de Macron et on sent bien que c'est argument contre argument. Il se serre la main poliment en se disant bon ben on sera jamais d'accord.
C'est rien
et
passé.
Puis voilà, il se passe rien.
Pas passé grand
donc
chose,
il y a aussi cette tentative de chez nous d'essayer de
discuter rentrer. Autrement quoi.
Ouais. Et ça crée même un chamboulement chez nous finalement. C'est-à-dire que
je vais vous interroger voilà.
On est obligé nous de on réfléchit tout le temps en faisant le film. En le tournant, en le montant, on a été obligé de repenser la dernière partie de notre film après qu'il ait fait ce geste de sincérité assez total, qui nous force un peu à nous-mêmes, d'une part, réécrire notre texte, revoir notre copie.
En révélant une partie de son passé que vous ignoriez.
Oui. Donc là, on se pose la question de est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose d'important? Est-ce qu'il nous ment? Est-ce qu'il nous a menti sur tout le reste? On se met tout se défait un petit peu. Nous, ça nous oblige à sortir d'un dispositif un peu rigide, de montrer encore plus aux spectateurs où nous sommes, à quelle place face à lui.
La fabrique du cinéma aussi.
Ouais.
On est obligé de montrer que la voix off a été écrite à un certain moment, que quelqu'un l'a enregistrée, donc de dévoiler tous les mécanismes
Pour que le spectateur, plutôt que qu'on dise au spectateur, soyez à notre place et regardez les choses comme nous on le veut, on dit regardez-nous face à Bastien, regardez-nous même dans des moments où on n'est pas très bon. Mm-hmm. Il y a des moments où on parle avec lui, on estime qu'on n'est pas vraiment à la bonne place, mais on le montre quand même parce qu'on veut montrer cette tentative de recherche de se rapprocher d'une vérité entre lui et nous, quoi, avec toutes les tensions que cela implique, parce que nous ne sommes pas dans le même camp, parce que il y a la tentative de manipulation de leur part et de sa part de devoir être sympathique, la tentative de notre part de ne pas nous faire dépasser par le film. Certains sortent du film en disant c'est un salaud, vous êtes bien fait avoir, etc. Certains d'autres sortent en disant il est Ce type est très attachant. D'ailleurs, vous êtes peut-être aussi avoir parce qu'il est attachant. Ils essayent de chercher un gagnant dans cette affaire. Ce n'est pas finalement la question, quoi.
Ouais, c'est pas un match. Hein.
D'accord. Et pour terminer, moi, j'ai aussi envie de vous demander ce que ce tournage vous a appris par rapport aux idées que vous pouviez avoir sur le fonctionnement du Front National, aujourd'hui le Rassemblement National. Est-ce que ça vous a fait évoluer sur peut-être la façon dont on en parle traditionnellement dans les médias? Qu'est-ce que ça...
Alors, c'est difficile de le dire de manière concise, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que, bon, je parlais pour moi, quand je commence le tournage, j'ai des a priori, pas forcément bien réfléchi au sujet, et je suis imprégné de diabolisation, quoi, en réalité, du Front National. Et puis en tournant, eh bien, on rencontre les gens, comme toujours, hein, sur le terrain, on infléchit notre posture, on précise, on se rend compte qu'au sein du Front National, il y a des gens qui votent, mais qui sont pas forcément très au courant du programme, que je pense qu'ils sont un petit peu manipulés, des gens malheureux aussi, chez qui le Front National sait très bien soulever la colère pour ensuite les utiliser comme ils veulent. Donc moi j'ai senti quand même une grosse opération de manipulation de la part des cadres du Front National. Et des gens qui se sentent méprisés par ce qu'ils nomment les élites, sans pouvoir bien préciser les choses. Et je pense que là-dessus, il faudrait plancher.
Ouais, ouais. Moi, j'ai découvert aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est comment est-ce que un parti arrive à donner à des citoyens une grille de lecture du monde qui correspond aux attentes, aux colères, on va dire, à la crise démocratique que vit la France aujourd'hui, et comment cette grille de lecture, elle est pensée complètement par le parti, et qu'elle correspond aux problèmes des gens, qui leur donne une manière de voir les choses qui est pas forcément celle que les gens auraient d'emblée. C'est-à-dire qu'on ne naît pas militant d'un parti, on le devient parce qu'on a une histoire personnelle, c'est ce qu'on va chercher chez Bastien. Hein. Mais on voit dans le film comment, à quel endroit Bastien a des attentes, a des colères, et comment est-ce que le discours que lui donne Marine Le Pen dans le moment du meeting, on le sent bien dans le film, comment est-ce que les mots qu'elle donne, les raisons qu'elle donne correspondent à des choses chez lui, mais qu'elle lui met une grille de lecture par-dessus qui est un peu tout ça, c'est la faute à le multiculturalisme veut ta perte, alors que ses problèmes n'ont rien à voir avec ça. Des choses comme ça.
Et ça, c'est assez fort, je trouve, dans votre film, c'est de montrer aussi, d'ailleurs, ce moment du meeting, il intervient plutôt, dans mon souvenir, à un moment de doute de Bastien dans son parcours dans le parti. Et on voit très bien que ce moment de meeting, c'est un moment de joie, qu'elle sait lui parler, le toucher, et que c'est un parti qui arrive à appuyer sur les cordes sensibles.
Le revigore.
On essaie de dissocier un peu ce qui peut se passer. Donc il y a un moment de joie quand ils sont dans l'autocar, qu'ils vont tous ensemble au meeting, et qu'on sent que la camaraderie réchauffe les âmes. Et puis, pendant le meeting, c'est plutôt une crispation qui se transforme doucement en colère. À la fin, ils hurlent. On est chez nous, on ne l'a pas souvent vu comme ça, Bastien.
Ouais.
Dans un sentiment comme ça de
Ouais.
de
mais
de
les
grande,
émotions
grande
sont
colère.
Fortes. Donc, et,
bien sûr.
Et on voit à quel point ils trouvent...
Ça le galvanise, et à partir de là, on a un moment dans le film où on pense qu'il pourrait se mettre en retrait parce qu'il a été déçu par des choses qu'il a découvertes au sein du parti. Et à ce moment-là, il décide de ne plus regarder ce qui le dérange et de foncer. Et donc, la fabrication d'un soldat, ça, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse, bien sûr.
Mais le meeting, on pourrait presque dire, on décrit un mécanisme d'emprise de la part de Marine Le Pen sur lui. Comment elle arrive à vraiment appuyer sur le bouton colère. Une fois qu'il est en colère, elle lui fait passer une lecture du monde, la lecture de Marine Le Pen. Quoi.
Du coup, vous l'avez un petit peu évoqué, mais est-ce que vous trouvez aujourd'hui que je vais revenir un petit peu à nos préoccupations à nous, mais que la manière dont les médias traitent l'extrême droite est juste, à votre avis, ça vous a quand même interrogé sur des procédés, des choses qu'il faudrait peut-être faire évoluer?
Oui, beaucoup. Alors, encore une fois, c'est assez long à raconter, mais je pense que le monde médiatique a une énorme... responsabilité aussi dans la montée de l'extrême droite. Je pense que le fait de en permanence rejeter les électeurs du Front National Il se passe un phénomène que Bastien décrit très bien, c'est que puisque tu veux nous mettre du côté des méchants, on va être les méchants, quoi. Mmh. Bastien nous le dit, ça. Mmh. À un moment dans sa vie, il s'est senti rejeté, et ben, et il a dit, bah, je vais faire ce que vous attendez de moi, quoi.
D'accord. Donc, peut-être ce qu'il faut faire, c'est essayer d'aller étudier les attentes. Mmh. Et que après, c'est pas que le rôle des médias, c'est le rôle des politiques. De proposer des choses qui s'adressent à des populations qui se sentent méprisées, pas écoutées, et aussi même sur...
Le rôle des politiques, ça me gêne, parce que moi, je pense que le film montre aussi une énorme crise de confiance envers les politiques. Oui. Et donc, vouloir remettre la responsabilité sur le dos des politiques, c'est, ils n'y sont pas arrivés, les politiques. Leur réponse face au FN, c'est, on l'a déjà dit, hein, c'est le cordon sanitaire qui arrive qu'au moment des élections pour dire... On va s'arranger entre nous pour que les scores ne montent pas. Mmh. Mais sous-entendu, cordon sanitaire pour mettre la maladie loin de nous. Et sous-entendu aussi, on n'écoute surtout pas le message des électeurs. On ne veut pas l'entendre. Ce qui compte, c'est les scores. Quoi.
Ouais. Donc il faut bien les un politiques, renouveau, il faut bien ils ont, un renouveau ils ont pas de la démarche politique.
On est bien d'accord. Mais je ne sais pas si c'est chez les hommes politiques actuels. Enfin, ils ont... grosse remise en question à avoir.
Les médias, tout cela.
D'accord, donc il y a un gros travail encore à faire, parce que on n'y est pas. Ok, ben, je vous remercie beaucoup. À bientôt sur Mediapart, vous pourrez revoir l'ensemble de nos émissions et bientôt un nouveau numéro de La Fabrique des Images.